Alors bonjour à tout le monde. En ouvrant le Nouveau Testament pour la première fois, ici, le lecteur découvre quatre évangiles selon Matthieu, Marc, Luc et Jean. Alors on comprend en disant que c'est le même sujet, c'est le même message, mais raconté par quatre auteurs différents. Quatre évangiles, c'est-à-dire quatre récits de la vie de Jésus, quatre sortes de biographies. Et la question que je voudrais poser ce matin, c'est: est-ce que ces récits sont fiables? Peut-on leur faire confiance? Alors, pour plusieurs, une telle question ne se pose pas ou pas vraiment, parce qu'on a rencontré le Christ, Jésus vit dans mon cœur, et on ouvre simplement la Bible avec confiance et on ne se pose pas de questions. Et pour d'autres, la question se pose. Je pense à deux situations. Je pense à des personnes qui seraient en recherche de sens à leur vie, qui seraient en recherche d'une spiritualité, de ce qui pourrait répondre à cette soif qui les habite, qu'ils sentent bien présente en eux-mêmes. Et puis vous savez, aujourd'hui, il y a tellement de réponses possibles, tellement de prétendants, tellement d'arnaques. Alors les évangiles sont intéressants, si je peux employer ce langage, parce que culturellement, vu la place qu'ils ont dans l'histoire humaine, ils représentent quand même une valeur sûre, hein, un petit peu plus sûre que la secte qui se monte du jour au lendemain, quoi, qui disparaît. Mais la question est là, hein, quel crédit leur accorder? Et puis, deuxième cas de figure, ce serait le cas de figure de personnes qui, petit à petit, vont s'interroger sur leur foi. Peut-être parce qu'ils se voient confrontés, juste en surfant sur Internet ou en regardant un reportage, à des affirmations comme les deux sur lesquelles je m'attarderai ce matin. La première, c'est la suivante. Les évangiles ont été écrits plus de 50 ans après les événements. Alors comment ça pourrait être fiable? Ou la deuxième, les auteurs des évangiles ne sont pas fiables parce que c'est du parti pris. Et si vous rencontrez ces questions, je sais pas, je sais que pour moi, la première fois que j'ai entendu ça, je ne savais pas trop quoi faire avec cette affaire. Surtout quand c'est dit sous couvert de science, entre guillemets, et puis on se voit pris un peu à contre-pied. Alors quelqu'un disait la chose suivante: on ne vient pas à la foi au terme d'une réflexion intellectuelle. Alors c'est faux. Peut-être pour certains, pour un certain nombre, oui, mais pour certains d'autres, c'est précisément parce qu'ils ont cheminé, qu'ils ont réfléchi, qu'ils sont venus à la foi. Donc, voilà. Mais surtout, il ajoutait, ce qui n'est pas tout à fait juste non plus, mais bon, voilà. Par contre, on s'en écarte souvent au moment où on commence à réfléchir. Alors, ça se discute parce que beaucoup seraient prêts à témoigner du contraire, que c'est précisément quand ils ont commencé à réfléchir sur leur foi que ça s'est davantage ancré en eux. Mais ce que je veux dire, c'est que ce que je retiens de cette affirmation, c'est pour ça que je la projette, c'est que devant certaines questions, je crois qu'il est juste pas suffisant de dire « je sais que c'est vrai parce que je sens Jésus dans mon cœur ». Pour quelqu'un qui est devant nous et qui nous pose la question, lui, il ne sent pas Jésus dans son cœur. Et lui, il a besoin d'un peu plus. Donc, les récits des évangiles sont-ils fiables? Peut-on leur faire confiance? Donnent-ils un portrait, je dirais, historiquement fiable de Jésus? Alors je pense que je ne vais pas casser le suspense en vous disant tout de suite que je répondrai par oui, les évangiles sont fiables, oui, ces récits sont fiables, de mon point de vue en tout cas. Et j'en rajoute tout de suite que oui, bien sûr, oui, oui, j'ai du parti pris. On va en reparler. Je voudrais essayer de vous proposer donc quelques éléments ce matin, et je vais le faire sans doute aussi au moins sur un prochain dimanche, parce que sinon, je vais parler pendant 2 heures et ce n'est pas la peine. Et je vous propose, pour rentrer dans le sujet, de lire le début de l'évangile de Luc, selon Luc. L'évangile de Luc est un texte particulièrement intéressant ici parce que c'est le seul évangile, je crois, où l'auteur nous explique ce qu'il a voulu faire et comment il a essayé de le faire. Les autres évangiles nous mettent d'emblée dans le récit, dans l'histoire racontée. Et là, c'est différent et ça concerne très directement la question que je vous propose d'aborder. Je voudrais lire les premiers mots avec vous. Puisque beaucoup ont entrepris de composer un récit des faits qui se sont accomplis parmi nous, tels que nous les ont transmis ceux qui, dès le commencement, en ont été les témoins oculaires et sont devenus serviteurs de la parole, il m'a semblé bon, à moi aussi, après m'être informé exactement de tout depuis les origines, de te l'exposer par écrit d'une manière suivie, très excellent Théophile, afin que tu connaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Pour ceux qui se posent la question au hasard, au passage, on ne sait pas qui était Théophile, on sait que c'est juste celui à qui il a écrit. Alors en lisant cela, certains vont se dire, ben voilà, c'est la réponse, on a la réponse. Je l'ai surligné en jaune. Luc nous dit que ce qu'il a écrit est certain. Donc, c'est certain. Alors, je ne sais pas ce que ça vous fait, mais pour moi, c'est un raisonnement circulaire. Je vais prendre un autre exemple pour essayer de vous le faire sentir. C'est comme si j'en venais à me demander si le Coran dit la vérité. Et je ne serais certainement pas convaincu par la parole par quelqu'un qui me dirait « Bien sûr que le Coran dit la vérité. La preuve, c'est qu'on lit dans le Coran dit la vérité. » Je le dis autrement, sur un autre registre, non religieux. Il se trouve que je ne croirais pas forcément Francis que Thérèse dise la vérité, simplement parce que Francis a dit « Je dis la vérité, donc il dit la vérité. » Ben non. Et parce qu'en mettant la main sur le cœur, ils disent « Je dis la vérité. » Nous savons tous que celui qui ment protestera et le premier à protester en disant « Mais je dis la vérité. » Et on n'a même pas besoin de mentir pour ça. On peut être sincère, dire quelque chose qu'on croit vrai et puis qui ne l'est pas. Donc cette approche un peu circulaire, je l'écarte. On ne peut pas partir d'une conclusion pour démontrer une conclusion. Alors, que dire ? Alors, ce que je me propose pour moi, en tout cas, de dire, c'est que puisque les évangiles sont des sortes de biographies, en fait, on se trouve ici devant des questions qui se posent devant toute biographie et devant tout ce que nous racontons les uns aux autres quand nous parlons de nous. Est-ce que je peux faire confiance à ce qui m'est raconté ? Comment vérifier que c'est ce qui est là, c'est exact ou inexact ? Et si je vous pose cette question, je crois, enfin pour moi, la réponse s'impose d'elle-même. D'un certain côté, j'insiste sur d'un certain côté, je ne peux pas vérifier ça. C'est juste pas possible. Parce que je n'étais pas là sur place. Et qu'est-ce qu'il faudrait, d'ailleurs ? Est-ce qu'il faudrait que j'ai été sur place pour être sûr que ça s'est passé ? On n'était pas là. Je n'étais pas là quand Jésus a prononcé tel discours, quand il a posé la main sur le malade et que le malade s'est redressé. Personne dans la foule n'a fait une vidéo, n'avait son téléphone portable. Mais il n'y en avait pas, alors donc évidemment, c'est compliqué. Personne n'a mis ça sur YouTube ou ailleurs. Mais c'est vrai des évangiles comme c'est vrai de tout. Je ne suis pas en mesure de vérifier la plupart des faits historiques. Napoléon, est-ce qu'il est mort à Sainte-Hélène ? Nous n'y étions pas. Et même si on y était, on ne serait peut-être pas dans sa chambre. Donc, d'un certain côté, on ne peut pas vérifier ça. Mais ça veut dire deux choses, au moins deux choses. La première, c'est qu'on ne peut pas faire la preuve que les choses se sont passées comme ça. Et j'ai envie de dire, comment est-ce qu'on pourrait la faire ? Et quelles preuves il faudrait produire pour que ce soit convaincant pour tout le monde ? Très simplement, je vous dis maintenant, hier j'étais dans mon bureau à 15h. Est-ce que vous me croyez? Vous n'êtes pas obligé de répondre, c'est une question rhétorique. Certains d'entre la plupart, peut-être, j'espère que la plupart d'entre vous me croient. Voilà. Mais peut-être certains ne me croient pas. Mais comment est-ce que je pourrais vous prouver que j'étais dans le bureau hier à 15h si je devais le prouver? Il n'y a pas encore de caméra dans mon bureau avec le truc au-dessous. Oui, t'as reçu les annonces, mais j'ai pu les envoyer d'ailleurs que dans mon bureau. C'est la magie d'Internet. Nous ne pouvons pas prouver que tel récit des évangiles s'est produit comme il est raconté. On ne peut pas. Mais ça, c'est la première chose. Mais ça, parce que ça marche dans l'autre sens. Autrement dit, qui sont ces gens? Je vais le dire de manière un peu polémique, mais je vais faire. Non. Qui sont ces gens, eux, qui nous disent que c'est évident que ça ne s'est pas passé comme ça? Est-ce qu'ils étaient sur place pour dire, mais non, ça ne s'est pas passé? Ils n'y étaient pas. Qui sont ces gens qui le plaident haut et fort que les évangiles ne sont pas fiables? Ils n'étaient pas là. Est-ce qu'ils sont capables de voyager dans le temps? Non. Alors je voudrais reprendre pour le temps qu'il reste les deux des questions que j'ai posées tout à l'heure. Et je ne sais pas si vous avez tiqué en voyant ce que j'ai projeté. En tout cas, moi je tique. Qui sont ces gens déjà qui nous disent que les évangiles ont été écrits plus de 50 ans après les événements? Qu'est-ce qu'ils en savent? Parce qu'en fait, ils n'en savent rien, a priori. Et qui plus est d'ailleurs en disant ça, ils écartent des témoignages anciens qui disent pas tout à fait ça. On sait pas, il n'y a pas écrit, ça a été écrit tant de temps après. Mais on sait que ça a été écrit par au moins deux des apôtres. Donc quand on dit ça a été écrit 50 ans après, mais attendez, on peut pas dire ça. D'autre part, même si on pouvait prouver ça, de quel droit en déduire que le contenu des évangiles ne peut pas être fiable, même si ça avait été écrit 50 ans après? De quel droit dire que ça ne peut pas être fiable? Là encore, ceux qui nous affirment cela pensent savoir quelque chose qu'ils ne peuvent pas savoir. Déjà parce que même 50 ans après, si on est bien renseigné, si on est bien documenté, on peut écrire des choses justes. Excusez-moi, c'est encore un peu rhétorique, mais c'est ce que font tous les historiens quand ils nous racontent, quand ils nous publient un livre d'histoire d'événements qui ont eu lieu il y a des siècles. Quand ils nous racontent la vie de Napoléon, par exemple, voilà, il y a deux exemples de biographies de Napoléon, mais elles ont été écrites aujourd'hui, elles n'étaient pas là. Je peux vous raconter aussi, à titre d'exemple personnel, je peux vous raconter quand j'avais 5 ans, ma mère m'a montré le clocher de l'église, et de la mairie, je crois, il y avait l'horloge. Elle m'a dit, est-ce que tu peux lis-moi l'heure? Et non, je ne pouvais pas lire l'heure. Et pour elle, c'est le moment où j'ai des lunettes aujourd'hui. C'était à ce moment-là, c'était il y a 55 ans. Je crois que c'est fiable, en tout cas. Et puis, même si ça avait été écrit il y a plus de 50 ans après, je voudrais nous rendre sensibles au fait qu'on est avec les évangiles dans une situation qui est, si on la compare avec des biographies de la même époque, on est dans une situation extrêmement plus rassurante que pour d'autres personnages célèbres de l'époque. Car il est rare dans le monde ancien d'avoir des biographes qui rédigent la vie de leurs contemporains. Et les biographies anciennes qui existent datent le plus souvent, ont été souvent rédigées de 100 ans à 400 ans plus tard. Deux exemples, l'historien romain Suétone, qui fait une vie des 12 Césars, et qui raconte, voilà les 12 Césars, et il raconte d'abord la vie de Jules, qui est mort 115 ans après sa naissance, Avance à l'essence, oui. Ça serait de la science-fiction dans l'autre sens. Ah, d'accord. Donc 115 ans avant. Autre exemple, Alexandre le Grand, qui a vécu de 356 à 323 avant Jésus-Christ. Et les biographies les plus anciennes qu'on ait de lui datent de 300 ans plus tard. Et les meilleures biographies qu'on a de lui datent de 400 ans plus tard. Alors bien sûr, ces biographies-là font référence à des sources plus anciennes, mais les sources, on les a plus. Pourtant, tout ce que nous pensons savoir, ou tout ce que nous savons, nous sommes sûrs, à propos de Jules César et à propos d'Alexandre le Grand, ben tout ça s'est repris de là. Et nos manuels d'histoire reprennent ces biographies sans trop d'hésitation et font largement confiance à ces biographies. S'ils ne le faisaient pas, mais nous ne saurions rien de Jules César, nous ne saurions rien d'Alexandre le Grand. Donc, avec les évangiles, on a le témoignage de plusieurs auteurs qui écrivent à une période très proche des personnes et des événements qui sont racontés. Il n'y a pas d'autre exemple de l'Antiquité qui est dans ce cas de figure. Et si on écarte les témoignages qui concernent Jésus, alors il faut être cohérent, il faut écarter les témoignages qui concernent Alexandre le Grand, Jules César, il faut écarter énormément de témoignages d'Antiquité, il ne reste pas grand-chose. D'où ma question, qui sont ces gens qui nous affirment que, puisque les évangiles ont été écrits plus de 50 ans après les événements, donc ce qui est déjà discutable, alors ça ne peut pas être fiable. Je passe à la deuxième question. Qui sont ces gens, si je parle de façon de parler, c'est un peu agressif à nouveau, qui sont ces gens qui nous disent que les auteurs des évangiles ne sont pas fiables parce qu'ils ont du parti pris? Je le redis autrement, l'évangéliste Luc a du parti pris à propos de Jésus, il est chrétien. Donc, nous dit-on, il aurait arrangé les choses, donc on ne peut pas lui faire confiance. Luc n'est pas neutre, Matthieu n'est pas neutre, Jean n'est pas neutre. Ils ne sont pas fiables parce qu'ils ont du parti pris. Mais vous qui dites ça, qu'est-ce que vous en savez? Comment vous savez que parce que quelqu'un a du parti pris, il n'est nécessairement pas fiable? Je vais y revenir. Question analogue. Mais qui est-ce qui est fiable? Qui est-ce qui est neutre? Qui est-ce qui n'a pas de parti pris? Vous qui dites que c'est pas fiable, est-ce que vous êtes sans parti pris vous-même? Personne n'est sans parti pris. Et c'est pas pour autant qu'on fait confiance à personne. Alors ce qui est juste, ce qu'il faut entendre, c'est vrai que chacun d'entre nous est tenté d'embellir, tenté de donner le beau rôle aux gens qu'il aime, de se donner le beau rôle à soi. Quand on raconte la même histoire l'un ou l'autre, on a le beau rôle et puis c'est notre conjoint qui fait vraiment que des bêtises. Et puis quand on écoute le conjoint, c'est un peu la même chose, sauf que c'est pas le même, les rôles ont été redistribués. Mais ce n'est pas parce qu'on a du parti pris qu'on maquille forcément ce qui s'est passé, la vérité. Et en fait, je voudrais vous rendre attentif au fait que parfois, justement, c'est le contraire. On aura le souci de dire exactement ce qui s'est passé pour ne pas être accusé de mentir. On aura le souci de ne pas en rajouter pour garantir sa crédibilité, pour être inattaquable. Et pour que personne ne puisse dire « Eh, j'étais là, ouais, mais ça ne s'est pas passé du tout comme ça. Tu n'étais pas dans ton bureau à 15h. Moi, j'y étais. » Je rassure, j'y étais, j'étais tout seul. Ce débat-là, je place la question de l'histoire, mais en fait, ce n'est pas propre à l'histoire. Je voudrais citer une sociologue contemporaine. Il se trouve que j'ai lu un de ses bouquins il y a 2 semaines. Elle s'appelle Irène Théry. Elle écrit sur un autre sujet, moi aussi, MeToo, hein, c'est sur l'histoire du mariage, voilà. Peu importe. mais celle de débat de l'objectivité du sociologue. Est-ce que le sociologue, comment il peut décrire des choses? Il fait partie de l'histoire. Bon, bref. Mais elle dit des choses qui m'ont touché, qui m'ont paru très pertinentes. Elle dit qu'un sujet de recherche vous touche personnellement. Je n'ai jamais eu l'impression que cela menace ce qu'on nomme l'objectivité. Et elle continue à propos de la sociologie. Alors la fin de la citation nous intéressera moins, mais c'est la façon de faire la sociologie. Elle dit, mais si vous pratiquez la sociologie par conviction que la vérité des faits, même si elle bouscule vos anciennes certitudes, sera toujours la meilleure alliée des combats pour la justice, l'implication personnelle peut donner une certaine qualité à votre recherche de l'objectivité. Je laisse tomber le reste. Je vais prendre un autre exemple que j'ai donné en études bibliques, je pense, je me répète, je dis ça pour ceux qui y étaient et puis qui disent « Ah oh, mais ils se répètent, oui, c'est vrai, je me répète, mais j'en suis conscient, il y a peut-être d'autres moments où... » Supposons que je doive raconter l'histoire de ma femme, que je doive raconter une biographie de ma femme. Évidemment qu'on peut me dire que je suis le moins bien placé pour en parler. J'ai du parti pris, je l'ai épousée et je suis resté avec elle. Donc bien sûr que je ne suis pas neutre. Bien sûr. Mais ceci dit, il faut quand même dire aussi que je crois être peut-être un des mieux placés pour raconter la biographie de ma femme. J'ai des informations que personne d'entre vous n'avait. Et si on disait, parce que tu as du parti pris, on n'écoute pas ce que tu as à dire, ça ne nous intéresse pas, mais c'est juste ahurissant. Qui d'autre que moi a de meilleures chances de connaître ma femme, au moins dans son extériorité. J'espère aussi la connaître un peu dans son intériorité, sa façon d'être. Mais ce serait elle qui pourrait en parler. Donc tout ça pour dire que bien sûr, quand on écrit une biographie, on n'est pas neutre. Les historiens antiques ne l'étaient pas plus que nous. Mais dans l'Antiquité, en tout cas, les historiens respectés étaient ceux qui avaient si bien intégré leurs sources qu'ils les restituaient avec leur propre perspective, avec leur style propre, avec leur propre langage. Et s'ils n'avaient pas fait ça, en fait, on aurait considéré que ça n'avait aucun intérêt. S'ils avaient simplement aligné des faits comme ça, on aurait considéré que ça n'avait aucun intérêt. Et c'est bien ce qu'on... C'est bien pour ça que Luc, Matthieu, Marc, Luc et Jean n'ont pas, nous ont dit ce que Jésus avait fait, nous ont expliqué ce qu'il faisait. Mais en tout cas, ce n'est pas parce qu'on n'est pas neutre qu'on raconte nécessairement des mensonges. Au contraire, parfois. Je voudrais terminer en revenant à ce prologue de l'évangile de Luc, et je voudrais nous faire entendre quatre choses. D'abord, le fait que plusieurs, donc nous lisons ici, que plusieurs avant Luc ont raconté ce qu'ils ont vu à des écrivains. Ils ont raconté les faits qui se sont accomplis, des faits dont ils pouvaient parler précisément parce qu'ils ont été des témoins. Et l'histoire, en fait, toute l'histoire n'est racontée qu'à partir de témoins. Et le fait qu'ils aient raconté ça nous fait entendre que Jésus les a été un personnage, une personne qui les a suffisamment marqués pour qu'ils le fassent. Et je dirais probablement qu'ils n'ont pas attendu très longtemps pour mettre par écrit cela précisément, parce que quand on est marqué par quelqu'un, on aime en garder une trace, on sait parfois que la mémoire est volatile. Donc probablement qu'ils n'ont pas attendu 50 ans pour le faire. Deuxième remarque, nous lisons dans ce texte que ces personnes en sont devenues les serviteurs. Et nous savons aussi, à partir de l'histoire, qu'ils le sont devenus même au risque de leur vie. Et je voudrais nous faire sentir que ces gens-là n'avaient absolument rien à y gagner. Si ça ne s'était pas produit, à quoi bon risquer sa vie pour quelqu'un qu'on dit avoir vu mourir, s'il n'est pas mort? Si on raconte des... Ils n'avaient rien à gagner à raconter l'histoire de Jésus, en dehors du mépris et en dehors d'une exécution. Et plusieurs ont été exécutés. Qu'est-ce qui s'est donc passé pour qu'ils en viennent là? Troisième remarque, apparemment, Luc, comme les autres, a été conduit, a été obligé de s'informer. Et en fait, il a été obligé de faire ce que font tous les historiens de toutes les époques, de partir à la recherche de témoins, de partir à la recherche de sources et de faire un travail de compilation. Et c'est l'occasion aussi, de, entre parenthèses, mais je le dis au passage, on se rend bien compte ici que le travail on va dire, mais il y a l'inspiration du Saint-Esprit, mais je n'ai pas de problème avec l'inspiration du Saint-Esprit. C'est juste de dire que ça marche en même temps. Ce n'est pas des choses qu'on oppose à des recherches historiques ou archéologiques, c'est des choses qui fonctionnent en même temps. Le travail d'inspiration de l'Esprit accompagne des recherches, accompagne des interviews, accompagne des questionnements, des questions et des réponses. Donc Luc a fait comme un historien, le fait. Et nous lisons que Luc prétend l'avoir fait le plus soigneusement possible. Ce n'est pas parce qu'on n'est pas un témoin oculaire qu'on raconte nécessairement des bêtises. Alors pour aujourd'hui, je propose deux choses. À ceux qui seraient en recherche et qui se posent des questions comme est-ce que les évangiles sont fiables, mais je leur propose d'accorder à Luc et aux autres évangiles au moins ce que j'appellerais le bénéfice du doute. Vous comprenez plutôt le bénéfice de la confiance, a priori. Comme ils aimeraient qu'on leur fasse confiance, a priori, lorsqu'ils s'adressent à quelqu'un d'autre. Parce que c'est ça qu'il s'agit. Il y a quelqu'un qui s'adresse à nous. A priori, je pars dans une attitude de confiance. Si je pars déjà dans une attitude de méfiance, ça ne va pas le faire. Mais si moi, c'est pareil. Si je m'adresse à quelqu'un et que je vois bien que la personne est déjà dans une posture, il n'a pas confiance en moi, alors que je dis, ça ne va pas. Il n'y a pas de communication possible. Donc, j'invite à laisser le bénéfice du doute ou le bénéfice de la confiance a priori, et puis juste à continuer le cheminement, à lire ce témoignage et à voir de qui on parle, à voir ce qui se passe. Et puis pour ceux d'entre nous, probablement la majorité, mais ceux d'entre nous qui sont prêts à faire confiance aux évangiles, je vous invite juste à entendre dans ce qui nous est dit là un indice du soin, de l'attention avec lequel ce texte, ces textes qui ont maintenant plus de 2000 ans ont pu être rédigés. Et du coup, de voir que ça donne de la terre, du terreau, de l'épaisseur à notre foi. Elle n'est pas basée sur un roman de science-fiction. Alors, j'ai tenté de répondre à deux objections générales à propos des évangiles. Ce sont des éléments partiels. Je voudrais, la prochaine fois, j'espère, présenter des éléments plus positifs, dire qu'est-ce qui nous encourage aussi à avoir confiance. Donc, à suivre pour la prochaine fois.
Merci Laurent.